Bonsoir et bienvenue dans ce 22e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 4 octobre 2021 et ce soir je suis avec Antoine.
Bonsoir Juliette.
Et avec Marion.
Bonsoir Juliette.
Bonsoir à vous deux. Comme d'habitude, nous allons vous résumer trois sujets d'actualité qu'on a bien bossé et je vais vous demander de me les résumer en deux mots, Antoine.
Archéologie et météorites.
Marion.
Araignée et progéniture.
Et quant à moi, ce sera Marie-Antoinette et Ancre. Et on va commencer tout de suite avec Antoine, sur archéologie et météorites.
Oui. Et je vais vous parler de recherche...
D'archéologie
et de météorites.
Non, je vais vous parler de recherches archéologiques qui datent, qui sont assez récentes, mais qui sont sur un site je crois que c'est en Jordanie. C'est au nord de la mer Morte. Donc, la mer Morte, c'est au nord de la mer Rouge. Et il y a la vallée du Jourdain qui est dans la prolongation. Et donc là, c'est dans la vallée du Jourdain et c'est juste au nord de la mer Morte. Et c'est une région qui a toujours été très intéressante parce qu'elle est fertile, un peu comme le delta du Nil. Et du coup, il y a beaucoup de sites archéologiques et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de villes autour de cette vallée. Et il y a beaucoup de recherches sur un site en particulier qui s'appelle Tal el Hammam, sur lequel les scientifiques ont été un peu surpris parce qu'ils ont découvert des éléments qu'ils ne trouvent pas d'habitude sur les sites archéologiques.
Genre des éléments de météorites,
des éléments de l'espace. Voilà.
Et non, en fait, ils n'ont pas trouvé d'éléments de météorites.
Mais
ils ont trouvé.
Retournement de situation.
Non, mais ils ont trouvé, en fait, j'ai un peu spoilé en disant météorites parce qu'ils ont trouvé des choses. Des preuves d'un cataclysme qui s'est passé sur ce site archéologique. Et météorite, c'est une des possibilités parmi plein de possibilités, mais on va voir ensuite que ça se...
Donc ils n'ont pas trouvé de traces de météorites.
Ils ont trouvé des preuves, ils n'ont pas trouvé une grosse météorite au milieu de
D'accord.
leur... Voilà. Mais en revanche, ils ont trouvé...
Ils ont trouvé des trucs qui pourraient entre autres correspondre à des météorites.
C'est ça.
Et aussi à d'autres trucs.
En tout cas, pardon. Qui correspondent à un énorme cataclysme. Et notamment de la poterie qui est fondue, des cendres, du charbon, du textile brûlé.
Une météorite avec de la poterie dessus.
C'est ça. Non mais en gros, des choses qui font penser à beaucoup de températures, des très fortes températures, et une sorte d'onde de choc qui aurait détruit toute cette zone.
A priori, à l'époque, ils n'avaient pas trop d'ultra puissante.
Voilà, pour ça aussi que les premières personnes commençaient à penser à une météorite. Parce qu'il n'y a pas d'activité volcanique dans la région, c'est pas Pompéi, c'est pas ce genre de site. Et que les preuves, ça laisse assez peu de place au doute quand même. Mais en revanche, pour être certain de cette hypothèse et pour savoir un peu quelles conséquences ça a eu sur le monde à l'époque,
Déjà, la poterie a été cassée, donc voilà, c'est pas cool.
C'est pas cool pour les archéologues.
Et pour les potiers.
Et pour les potiers.
Ah non, pour eux, c'est cool, ça leur fait tout un business qui repart.
Mais en gros, il y a eu pas mal d'experts qui sont penchés sur le sujet et sur les différentes preuves qui étaient à leur disposition. Donc du coup, il y a eu un article qui est sorti le 20 septembre dans Scientific Reports, c'est un plutôt bon journal, par Ted Bunch et 19 autres auteurs. Et depuis, il y a eu pas mal d'articles de vulgarisation dans la presse grand public. Donc, quelles ont été leurs méthodes pour savoir un peu ce qui s'était passé? Déjà, ils ont fouillé méticuleusement les différentes couches au-dessus de ce site.
Est-ce que juste tu as une idée en mètres carrés de combien de quelle taille ça représente?
C'était plutôt une petite ville.
Ouais, donc on est quand même sur l'échelle d'une ville, quoi.
Mais en revanche, c'était assez réparti et au total, tout ce qu'ils ont étudié, ça fait 6 hectares.
Ah oui,
ouais.
Donc c'est quand même assez important.
Un bon impact, quoi.
Ouais. Pas un impact factor 1000, mais...
mais pas loin. Et en gros, quand on fouille, plus on fouille, plus on remonte dans le temps. Et plus on peut déterminer, on peut avoir des infos en fonction de quelle couche est au-dessus de quelle couche. Donc ça, ils ont fait ça assez précautionneusement pour arriver à comprendre ce qui s'était passé en termes de temporalité, quoi. Ils ont aussi daté, grâce à des isotopes, les différentes preuves qu'ils ont trouvées, les poteries, les textiles, les corps aussi, parce qu'il y a des corps de personnes. Et ça, c'était assez compliqué apparemment, parce que, en gros, la datation, on connaît la datation au carbone 14, mais il faut voir qu'il y a plusieurs isotopes pour plusieurs échelles de temps. Et là, je crois que c'est pas du carbone 14, parce que carbone 14, on en parle souvent pour
les recherches
préhistoriques, les choses comme ça. Là, c'est d'autres isotopes. Et il y a aussi un paramètre qui est important, c'est la précision, parce qu'il y a des isotopes qui te donnent qu'une précision à l'échelle du millénaire, tu vois. Donc là, ça servirait à rien.
Ouais.
Ils voulaient savoir un peu comment les choses...
Oui, parce que la poterie, on sait que c'était globalement quel millénaire.
Donc là, ils étaient intéressés quand même pour avoir une précision assez fine, pour comprendre à quelques années près quelle chose était plus vieille que d'autres. ils ont aussi, alors ça m'a un peu étonné, ils ont recherché des nano-diamants dans les débris.
Pour se faire de l'argent.
Pour se faire de l'argent, mais aussi parce que c'est des bons indicateurs de chocs très violents.
Mmh. Quand juste précise, donc nano-diamants, c'est des diamants qui doivent être très 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 petits.
Ouais, parce que...
Nano, c'est vraiment très 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 petit.
C'est quelques atomes, quelques centaines d'atomes qui se regroupent entre eux. Donc un diamant, c'est du carbone. Et c'est des atomes de carbone qui se regroupent d'une manière spécifique sous forme d'un cristal de diamant.
Donc là, on est sur des diamants qu'on peut pas voir à l'œil.
Non, c'est des choses
que
tu vérifies en microscopie. Et on sait que quand ça arrive, ça veut dire qu'il y a eu des conditions de température et de pression telles que ça avait des chances d'arriver. Et donc ces conditions de température et de pression, ça arrive en général quand il y a un choc très violent. Et c'est souvent sur des sites d'impact de météorites, par exemple.
J'avais très envie de dire des sites d'impact vecteur.
De toute façon, impact...
C'est... Oui, maintenant, c'est un peu...
Ils ont aussi... Donc, il y a eu beaucoup d'analyses. Hein. Moi, je trouvais ça vachement intéressant. C'est un article de 64 pages. Mais en revanche, tu peux le lire assez facilement. Mm-hmm. C'est très bien écrit. Ils décrivent les différentes preuves qu'ils ont. Et donc, ils ont aussi analysé la poterie fondue et le champ magnétique résiduel dans la poterie. Et donc ça, en fait, ça a permis d'éliminer une hypothèse. Parce que, OK, ils ont trouvé de la poterie fondue, mais la poterie, ce qu'ils ont dit, c'est que potentiellement, ça aurait pu être fondu par un éclair. Mm-hmm. Parce qu'ils avaient des poteries, parfois, sur les toits.
Enfin, un éclair de 6 hectares, ça fait du bon éclair.
Non, mais après, tu vois, la poterie fondue, ils ne l'ont pas retrouvée partout. Ils l'ont trouvée sur une partie du site. Et donc, ça aurait pu être un éclair, tout simplement, qui a...
C'est plus un éclair très vénère contre les poteries en particulier.
Mais sauf que quand il se passe...
C'est Zelda, ça. C'est...
Vous allez me laisser parler?
Attends, t'as dit poterie et champ magnétique en même temps. Comment tu veux qu'on reste silencieuse?
Mais le truc, c'est que quand t'as un éclair qui fait fondre une poterie, il y a un champ magnétique énorme et ça va refroidir assez rapidement, je crois. Et donc, du coup, le champ magnétique résiduel dans la poterie est assez fort. Alors que quand la poterie brûle... par un choc de météorite, ça fond plus lentement et du coup la poterie a le temps de garder uniquement le champ magnétique terrestre. Donc en fonction du champ magnétique qui reste prisonnier de la poterie qui refroidit, tu peux savoir ce qui s'est passé et ce qui a créé la chaleur.
D'accord.
En gros, en refroidissant vite, ça emprisonne le champ magnétique à l'intérieur, c'est
un
ça
peu, ouais, c'est okay. Ça. Donc ça, c'était une des preuves aussi. Ils ont regardé la direction des débris. Donc, pour un même objet cassé, dans quel sens il était cassé.
Ça, c'est Dexter, hein, par contre.
Mais du coup, ils ont vu que sur ce site de 6 hectares, tous les débris étaient cassés dans le même sens.
Ah,
donc, quand même, ça donne une petite indication.
Donc déjà, ça ne peut pas être des éclairs, parce que les éclairs, il y a la chance que tous les éclairs étaient dans le même sens.
Ouais, et puis ça ne ferait pas ça, tu vois. Ce serait...
Ouais, puis ça tombe plutôt verticalement, je pense, un éclair.
C'est pas faux.
Non, puis surtout, t'as pas...
Enfin, en même temps, une météorite, ça tombe plutôt verticalement.
Le truc,
aussi.
C'est qu'un éclair, t'as pas une onde de choc.
Oui, voilà, c'est ça. Ta météorite est une onde de choc.
Ou alors, c'est
tort.
Ou alors...
Attends, on va y venir, parce que t'es pas si loin que ça.
Ah, ok.
Je finis avec les preuves, parce que
les Avengers.
Je trouve qu'elles sont toutes intéressantes. Ils ont aussi trouvé des squelettes, comme je disais tout à l'heure. Mais des squelettes qui avaient des impacts dans le crâne.
En vrai, non, c'était pas terrible. Est-ce que c'est des impacts de poterie?
Non, c'est des impacts.
Ça me souvient un peu d'être tué à coup de poterie perso.
Donc ils sont désarticulés, ils sont complètement défoncés, les squelettes.
Ouais,
on sent qu'ils ont eu une mort assez violente, quoi.
Ouais,
c'est pas un petit caillou, quoi.
Et c'est pas une guerre aussi, parce que pendant un moment, ils se sont aussi dit, ça peut être juste une guerre qui a détruit la ville. Donc je vais pas préciser la date, d'ailleurs. C'est en 1650 avant notre ère, donc il y a plus de 3000 ans. Et donc, ils ont inscrit tout ça dans le contexte aussi qu'ils connaissaient de l'époque. Quoi.
Oui, donc c'est, peu de bombes nucléaires ou des trucs comme ça.
Voilà, c'est ça. C'est l'âge de bronze, en gros. Et aussi, le dernier truc, ils ont trouvé une salinité importante au niveau du sol dans toute la région de la vallée du Jourdain.
Mmh. Salinité, c'est le taux de sel.
Voilà. Et ça, apparemment, pendant plusieurs années, ça a affecté la fertilité des sols. Et ça a complètement... Enfin, je veux dire, les gens n'étaient plus là parce que les sols étaient plus fertiles.
D'accord.
Et donc ça, ce serait une preuve d'un potentiel tsunami depuis la mer morte. En lien avec le choc de la météorite. Et pas l'impact, parce que c'est l'impact. Donc en gros, à la fin de tous ces indices, ils ont fait un grand tableau avec tous les indices et toutes les causes possibles de tout ça. Et ils ont mis des petits plus et des petits moins dans toutes les cases pour voir un peu ce qui pouvait causer ça. Et donc, une grande surprise, c'est plutôt l'hypothèse de la météorite qui coche toutes les cases.
Et du coup, ce serait une météorite qui serait tombée dans la mer ou sur la Terre ?
Non. Alors en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, et c'est ce qu'ils font le lien aussi avec un autre événement qui a eu lieu en Russie. Donc c'est l'incident de Tunguska. Et c'est arrivé je crois que dans les années 1900, truc comme ça. Et donc là, c'était une météorite de 50 à 80 mètres de diamètre qui est arrivée dans l'atmosphère et qui a créé un choc 1000 fois plus important que la bombe d'Hiroshima. Oui. Et donc, ça a instantanément incendié des arbres sur une surface de 200 km². Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que la météorite arrive à des vitesses énormes dans l'atmosphère et ça crée une onde de choc énorme qui se propage vers le sol.
Donc t'as pas vraiment d'impact sur le sol, mais c'est plutôt une onde de choc.
Non, en fait, ce qui arrive au sol, c'est
les débris,
mais c'est pas ça qui fait le problème.
Du coup, le tsunami, il devrait être dirigé vers les pays autour et pas vers le centre.
En fait, quand tu regardes la carte, c'est une vallée qui part plein nord depuis la mer morte. Et du coup, potentiellement, ça aurait poussé l'eau et serait allé le long de la vallée du Jourdain.
D'accord.
Voilà. Dernier truc, c'est qu'ils se demandent pourquoi on n'a pas entendu parler de cet événement. Et en fait, tout simplement, à l'époque...
Il n'y avait pas de...
Il n'y avait pas d'écrit.
Pas les archives.
Les gens n'avaient pas d'écrit. Et c'était surtout la tradition orale qui permettait de transmettre l'histoire.
C'est un peu ce qu'on fait avec un backfactor, la tradition orale.
Mais surtout que là, on a les moyens scientifiques de savoir un peu ce qui s'est passé. Mais eux, à l'époque, ils ont dû...
Il y a sûrement eu des témoins quand même.
Ouais, mais ils ont dû se demander carrément ce qui se passait en fait.
Ouais, et qu'est-ce que tu fais à l'époque quand tu sais pas ce qui se passe
Tu dis que c'est un truc religieux.
Voilà. Et en fait, une des hypothèses, c'est que c'est ce qui a servi de base à l'histoire de la destruction de la ville de Sodome dans la Bible.
Mmh.
Alors moi, j'ai pas trop lu la Bible, mais où c'est en gros, t'as une sorte de destruction énorme de cette ville. Je sais plus dans quel cadre c'est expliqué, mais...
C'est marrant qu'il est marqué par une météorite
côté par un champ magnétique et météorite, vallée du Jourdain, Jordanie.
Voilà. Non, en tout cas, ça ne les étonnerait pas trop que ça soit impact. Lié à ça. Quoi.
Ok.
Ok, bah cool.
Mais bon, je vous rassure, c'est assez rare ce genre de vêtements. Ça arrive une fois tous les quelques milliers d'années. Donc là, c'est arrivé récemment en Russie.
Ouais, voilà, c'est arrivé récemment, donc c'est bon après.
Après, on sait qu'avec les stats, ça pourrait potentiellement arriver à nouveau maintenant, mais
globalement,
c'est assez safe.
Ok. Eh bien, c'était fort intéressant. Et je me retourne vers toi maintenant, Marion.
Bonsoir.
Bonsoir. Tu vas nous parler d'araignées et de leur progéniture.
Tout à fait.
Et c'est vraiment un sujet qui a l'air très mignon.
C'est pas mal.
Très attendrissant.
C'est pas mal.
Eh bien, vas-y.
Puisque je vais rester un peu dans le sillage d'Antoine et de l'archéologie. Et je vais parler évolution. Et plus particulièrement, je vais parler des soins maternels apportés aux petits chez les araignées. Donc aux bébés araignées. Donc, qu'est-ce qu'on appelle déjà soins maternels ? Alors, c'est un éventail très large qui a plusieurs définitions selon les chercheurs, mais globalement, ça va de protéger les œufs à vraiment nourrir, élever les petits, vraiment s'occuper des petits. Donc, chez quasiment toutes les espèces d'araignées actuelles, on retrouve des formes de soins maternels. Donc, est-ce que vous connaissez des formes de soins maternels chez les araignées ? Qui consistent à nourrir les petits ou ce genre de trucs ?
Ouais, nourrir les petits.
Non, mais comment ?
Ça, je sais pas. Déjà, je sais pas comment on nourrit un bébé humain, donc...
ce qu'on retient surtout des bébés araignées, c'est souvent ce qu'on appelle la matriphagie. Donc, c'est les petits qui mangent la mère. C'est assez connu chez les araignées.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà.
Un moment sympa.
Très pipou, comme tu le disais. Mais...
Un repas en famille, quoi.
C'est ça. Donc c'est pas la forme la plus connue, la plus répandue, c'est ce qu'on appelle le sac à œufs, ou sac à œufs du coup, qui est en fait une structure de soie, une espèce de cocon qui est fait par les araignées, et qui forme un sac qui protège les œufs des parasites et des prédateurs. Et donc selon les espèces, c'est ça qui peuvent être plus ou moins épais, plus ou moins bien formés, et surtout ils peuvent être ou non attachés à la mère qui va le transporter partout, ou alors le laisser dans un nid, où la mère va par exemple rester près du nid et ne pas manger tant que, et ne pas aller chasser tant que les œufs n'ont pas éclos.
C'est comme un peu les kangourous avec leurs poches, mais voilà. Sauf que là, tu peux le détacher.
C'est ça.
Okay.
Ce serait cool si nous, en tant qu'humains, on pouvait faire ça.
Oui. Bah, finalement, j'ai envie de te dire, t'as une poche
non, mais
qui attache à toi.
Quand... Oui.
Oui. Oui, mais tu peux pas la retirer.
Mais qu'on puisse la poser, quoi. C'est bah, ça
tu prends un sac à dos, sinon.
Oui.
Oui, c'est un petit peu un sac à ventre, finalement. voilà. Donc là, ce dont on va parler aussi, aujourd'hui, c'est évolution. Et donc, en fait, ce qu'on veut savoir dans l'évolution, c'est quand sont apparues certaines caractéristiques des espèces. Finalement, on s'intéresse assez peu à une espèce en général, en particulier. Ce dont on s'intéresse, c'est quand sont apparues certaines caractéristiques. Et donc là, en l'occurrence, quand on veut savoir à partir de quand ces signes de soins maternels ils sont apparus chez les araignées. Et jusqu'à maintenant, les plus vieux fossiles de sacs à œufs qui ont été retrouvés, ils dataient de 65 millions d'années, à peu près.
Ok.
Donc dans cette étude qui a été publiée le 15 septembre dernier dans Proceedings of the Royal Society B, qui intitulait les soins maternels chez les araignées lagonomépides, non, lagonomégopides du milieu du Crétacé.
La ménémone. Ça fait trop penser à...
La ménémone. Donc Xiao Guo, Paul Selder et Dongren, ils s'intéressent à 4 fossiles qui ont été retrouvés piégés dans de l'ambre et qui ont été retrouvés au Myanmar.
Ça me rappelle un petit peu un film, ça, dit donc. Oui.
Est-ce qu'ils auraient été pensés sans compter?
Peut-être.
Peut-être. Donc, parmi
probablement pas parce que c'est de la recherche, voilà, donc ils ont forcément compté tous les sous.
Oui. Donc parmi ces 4 fossiles, on retrouve notamment une araignée, identifiée comme étant une femelle de la famille des Lagonomégopidae, qui est une famille aujourd'hui éteinte, et ainsi qu'une partie préservée d'un sac à œufs, sous l'araignée, qui se trouve sous l'araignée. Et donc les 3 autres, ils contiennent entre autres des bébés araignées, au nombre respectif de 24, 26 et 34, donc beaucoup de bébés araignées, et qui sont probablement du même âge si on en croit leur morphologie. Donc, grâce à des méthodes de datation, ces fossiles ils ont été identifiés comme datant d'environ 99 millions d'années.
Ah ouais, donc là, c'est...
Ouais.
On change tout le paradigme par rapport à ceux de 65 millions d'années. Quoi.
Voilà, donc si vous voulez un repère à peu près, 99 millions d'années, c'est la moitié du Crétacé, donc c'est-à-dire que les diplodocus ont déjà disparu, mais les T-Rex ne sont pas encore apparus.
Antoine, tu disais que ta météorite, ce serait environ quand?
Ah bah c'est beaucoup plus proche de nous. Hein,
c'est il y a 3000 ans.
Ouais. Moins 1600, non, mais c'est juste ouais. Pour donner des... Ok.
Ah ouais.
Donc là,
donc
ouais.
Là, elle te fout une race
énorme. Ah ouais, beaucoup plus loin.
Ouais. Tu n'es que poussière. Mais on parle aussi de météorites, puisqu'on parle de dinosaures, finalement. Ouais. Donc, les diplodocus, il n'y a plus. Les T-Rex, il n'y a pas encore. Petites araignées, il y a. Et du coup, en soi, qu'est-ce que ça veut dire, cette découverte? Bah, d'une part, qu'on a trouvé, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, le plus vieux fossile qui montre des sacs à œufs et du coup, une forme de soins maternels par les araignées.
Et ça, c'est stylé.
Et ça, c'est stylé. Et aussi le fait qu'il y ait donc de nombreux petits à côté, ça pourrait montrer une forme de soin après la naissance.
Alors, ah oui, même d'éducation un peu ou
voilà,
c'est trop long.
Après là, en gros ils ne peuvent pas le dire, puisque en fait ce qui se passe quand on a des fossiles qui sont dans l'ambre comme ça, en réalité c'est souvent c'est des insectes qui ont été piégés dans de la sève d'arbres, et qui avec le temps du coup s'est durci et du coup crée des fossiles. En fait, là, du coup, ce qu'on a, c'est quelque chose qui est piégé à l'instant T. Donc, en fait, on ne sait pas si ça se trouve, ces araignées, elles étaient sur le point de... Elles venaient d'éclore et elles étaient sur le point de partir.
Ouais.
Ce qu'on sait, c'est que les araignées, ce sont des espèces assez solitaires en général. Donc là, ce qu'on pense, vu qu'il y en a beaucoup et qu'ils sont comme... qui sont pas très grands, mais qui sont bien formés, c'est possible qu'il y ait une forme de d'élevage après la naissance. Mais pour l'instant, c'est pas sûr.
Ok.
Et voilà.
Peut-être qu'elle faisait une fête.
Peut-être qu'elle faisait une fête.
Oui, probablement.
Avant d'être piégée dans l'ambre.
Une baby shower.
Oui, c'était peut-être une baby shower avec de l'ambre, avec de la sève d'arbre.
De la sève
effectivement.
D'arbre.
Baby shower qui a mal tourné. Ok. Donc les araignées s'occupent de leurs petits. Déjà, c'était une info assez ouf.
Ouais. Mais c'est quasiment voir toutes les espèces d'araignées actuelles et éteintes qui s'occupent de leurs petits. D'une façon ou d'une autre. Ça peut être juste faire un cocon autour des œufs et après, une fois qu'ils sont éclos, démerdez-vous. Et ça, mais ça peut aller jusqu'à vraiment, après la naissance, une forme de soins et de nourrissage des araignées, okay. Des bébés araignées. Soit en se faisant manger soi-même, soit en leur apportant de la nourriture ou ce genre de truc.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup.
Et pas de rien.
Moi, je vais enchaîner sur mon sujet, donc Marie-Antoinette et encre. Et tout commence, alors là, oui, ben, moi, tout commence en 1774. Donc là, bon.
Ah, ouais, ça gagne pas. Hein.
Très historique, mais c'est pas moi qui est la plus vieille.
Et pourtant,
au château de Versailles, donc pas loin d'ici, où Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France et de Navarre, rencontre un Suédois, le comte Axel von Fersen. Et c'est un nom extrêmement stylé, Axel von Fersen. Ce noue entre la reine de France et de Navarre et le comte, Axel von Fersen, une relation assez forte, puisque le comte participera notamment à l'organisation d'un événement qui est la fuite à Varennes en juin 1791, et donc il a participé à l'organisation de cette fuite. Oui, parce que Révolution, Louis XVI,
décapitation,
voilà, je ne replace pas trop le contexte historique parce que c'est plutôt des noms qu'on connaît. Et notamment cette relation, elle a donné lieu entre 1791 et 1792 à des échanges épistolaires, donc de lettres, qui ont été rachetées, donc d'une cinquantaine de lettres, et qui ont été rachetées en 1982 par les Archives nationales de France à la famille Fersen. Avant de faire et sur cette cinquantaine de lettres, il y en a une quinzaine qui ont des passages qui sont ce qu'on appelle caviardés. C'est un mot que j'ai découvert aujourd'hui.
Okay. Ça veut dire
enduit de caviar. Non,
biffé, c'est ça le terme.
Oui, c'est-à-dire que en gros, il y a des passages sur lesquels, donc, qui étaient écrits, et sur lesquels quelqu'un a réécrit, ou plutôt s'est amusé à faire des suites de boucles, pour que, en fait, ce soit illisible, pour qu'on puisse pas trop voir ce qui s'est passé. Alors, j'essaie de vous trouver un exemple.
Mais pourquoi ça s'appelle caviardé ?
Eh bien, je ne sais pas.
D'accord.
Mais ça s'appelle comme ça. Donc, ces passages ont été caviardés, et depuis belle lurette, qui est un terme scientifique adapté, on pensait que ces lettres ont été caviardées par, je vais le dire beaucoup parce que j'aime beaucoup ce mot, par la famille von Fersen, eux-mêmes, pour cacher donc, les passages qui étaient probablement gênants et pas forcément...
Sulfureux, peut-être.
Peut-être sulfureux, et pas forcément bon pour Axel von Fersen, et donc avant de les vendre. Et, mais en revanche, ces dernières années... Des scientifiques, notamment Anne Michelin, Fabien Potier et Christine Andreau, travaillaient à déchiffrer ces passages. Donc il y avait déjà une première partie de déchiffrement qui avait été fait parce que c'était codé, mais donc là ça avait été décodé, donc c'était pas un problème de caviardage. Et là, eux, ils travaillaient sur les parties caviardées.
Mais du coup, ce caviardage, ça a été fait juste avant la vente en 1980 quelque, ou ça a été fait avant?
On ne sait pas.
On ne sait pas. D'accord.
Eux, ils pensent. Je crois qu'ils parlent de bien avant, parce que je crois qu'ils pensaient que c'était le neveu de Axel von Fersen.
Ah oui.
Mais on ne sait pas.
Intrigue à la cour.
On ne savait pas qui était l'auteur de cette censure, en fait. Et donc, ces dernières années, ils ont travaillé à déchiffrer ces passages et ils ont réussi à déchiffrer 45 ratures, donc réparties sur 8 pages. Donc je rappelle qu'il y avait une quinzaine de pages avec des ratures, et là, ils ont réussi à en déchiffrer 8, en analysant la composition des encres. Et pour faire ça, ils ont utilisé différentes techniques d'imagerie et de traitement d'image. Moi, j'ai bien aimé, parce que c'est un truc que j'aime bien, le traitement d'image. Mais celle qui a donné le plus de résultats, c'est de la spectrométrie de fluorescence des rayons X.
Très, très.
Donc, c'est des rayons X. Qu'on envoie sur des très très précisément donc sur les lettres et en gros en fonction de comment le rayon se rétracte réfléchit, on va pouvoir établir la composition atomique du papier qu'on a sur lequel on a fait passer le rayon X.
Ils analysent le spectre aussi Donc toutes les longueurs d'onde qui sont émises, ou c'est juste...
Alors, avec ça, pour moi, peut-être que oui, mais pour moi, ils ont surtout analysé la composition.
D'accord.
Puisque, en fait, ce dont ils parlent, c'est... ils disent justement que... donc là, ils ont fait cette analyse pixel par pixel sur les parties raturées. Okay. Et ils disent que donc, ils ont pu mettre en évidence que, en gros, toutes les encres, en tout cas à l'époque, et celles qui ont été utilisées, étaient composées de soufre, de potassium, de manganèse, de fer, de cuivre et de zinc. Et eux, ce qui les intéresse, c'est voir la composition sur ces éléments-là.
Mais du coup, en quoi connaître la composition des encres, ça va les aider à savoir ce qui est écrit ?
Parce que ce n'est pas... L'hypothèse, c'est que ce n'est pas Marie-Antoinette, ou en tout cas la personne qui a écrit la lettre, qui juste après s'est dit « bah je vais raturer ce que je viens d'écrire ». Enfin, pas raturer,
mais... Ça se trouve, c'était juste la même chose qui a écrit après. C'est juste trompé, elle a fait « bon, bah je vais raturer ».
Je vais dire que c'est censuré. Ouais. Mais... donc, l'hypothèse, c'est que c'est des encres différentes.
Bah
et
oui.
Donc, en connaissant la composition des encres, on peut... En fait, c'est parce qu'ils prennent des photos, et quand tu vois... C'est pas comme nous, on peut avoir l'habitude où on voit un histogramme avec telle composition. Mmh. C'est qu'en fait, on voit l'image, et on voit l'image qu'on peut avoir quand on regarde du cuivre, on voit l'image qu'on peut avoir quand on regarde du fer, etc., etc.
Donc concrètement, tu vois l'image de la première écriture et tu vois l'image de la deuxième écriture qui a tout masqué.
Ouais. Voilà. Alors, je précise que l'article a été publié dans Science Advance, plutôt un très bon journal scientifique, que, en tout cas, moi, j'ai réussi à avoir accès en libre accès. Qu'il est évidemment en anglais, mais pas non plus... alors, il y a des parties qui sont très difficiles à lire, mais en tout cas, si vous voulez voir ce que ça donne, il y a des images, et on peut voir, en fait, par étapes, ce que ça donne à chaque fois qu'ils appliquent un traitement. Donc voilà. Et je précise aussi que, quand même, pour ce travail, je vous donne des chiffres qu'ils ont donnés, qui sont un peu une moyenne. 10 cm de texte d'acquisition au rayon X, c'est à peu près 4 heures.
Oui. 15 pages,
donc en fait, tu mets déjà du temps. Et ça, c'est sans tout le traitement d'image qu'il y a derrière, évidemment. Donc voilà, c'était juste pour donner un petit ordre de grandeur. Et donc, en fait, ils vont se retrouver face à plein de ratures et face à plein de contextes, en tout cas de combinaisons de problématiques différentes. Donc parfois, il y a des cas très simples où finalement, sur les deux encres, il y en a une qui a une grande quantité de cuivre. Donc en fait, c'est assez facile de pouvoir les distinguer l'une de l'autre. Il suffit de soustraire celle qui a une grande quantité de cuivre. Et on peut relire. Il y a des cas plus compliqués où les deux encres ont à peu près la même composition, mais pas dans les mêmes proportions. Donc là, ça veut dire qu'il faut se dire, bon bah tous les passages où il y a 3% de cuivre et du coup je simplifie vachement 97% de fer, bon bah ça c'est l'écriture du ratureur, je vais l'appeler comme ça. Et du coup c'est tous ces passages-là, on peut les enlever pour avoir l'écriture originale. Il y a des cas plus relous où on va avoir une écriture au recto et au verso. Donc là ça va commencer à devenir gênant.
Ouais.
Heureusement, ils ont des cas dans ce cas un peu plus gênant où, par exemple, apparemment Marie-Antoinette a attendu un peu 2 jours entre le moment où elle a écrit la première page et le moment où elle a écrit le verso. Et du coup, ils peuvent distinguer l'un de l'autre, mais il y a d'autres cas où elle n'a pas du tout attendu. Et donc là, ça veut dire que sur une même encre, on va avoir 2 parties qui sont intéressantes, plus l'encre du ratureur.
Donc tout ça, ça veut dire que finalement, faut dire adieu au traitement automatique de tout le...
Bah du coup, ouais, ils ont... Alors,
manuelles quand même.
Ils sont obligés d'avoir des actions manuelles. Après, là, on se pose ça parce que nous, en tout cas moi, en tant que biologiste, quand je traite des images, j'essaie d'avoir le moins d'impact sur...
Un vecteur thermique.
Voilà. Sur le traitement d'image, en fait, de prendre le moins de décisions moi-même pour que mes résultats soient complètement neutres. Là, en l'occurrence, même si eux, ils ont la main mise sur les résultats, et même si c'est eux qui font plein de décisions, ça ne change pas les résultats. Mm-hmm. Le but, c'est de dire quelque chose. Donc, c'est pas en ayant la main, enfin, c'est pas en étant impliqué dans.
Non, ils biaisent pas les résultats.
Voilà, ils biaisent pas les résultats en étant impliqué. Mais effectivement, ce qu'ils expliquent, et moi j'en ai compris une partie, mais pas tout, c'est que en fait ils se sont retrouvés face à plein de cas différents qui ont demandé de mettre en place plein de techniques différentes. Parfois, ils ont une rature sur 10 cm où il y en a 8, où il y a une technique qui marche vachement bien. Et puis sur les 2 derniers centimètres, en fait il faut changer de système parce que voilà. Parfois la signature d'un bruit de fond d'une des zones peut être récupérée pour l'appliquer à une autre zone. Et en la retirant, on réussit à avoir une meilleure image.
En plus, ça s'automatise très mal parce que du coup, t'es obligé d'avoir un humain qui dit si oui ou non c'est lisible.
Ah oui,
non, le programme peut pas. Tu vois, il peut pas tenter une méthode, voir si c'est lisible et tenter l'autre ensuite.
Donc c'est pour ça que c'est un boulot qui a dû prendre beaucoup de temps et donc qui implique beaucoup d'outils de traitement d'image. Puisque donc, comme on l'a dit, il n'y a pas une solution pour toutes les parties censurées, et en fait chaque partie a un peu son propre challenge et nécessite sa propre solution. Mais il n'empêche que du coup ils ont quand même réussi à en déchiffrer 45. Et sur les passages caviardés, on trouve quand même que les formules qui sont censurées sont des formules affectives, plus ou moins fortes, avec quand même ce passage où Marie-Antoinette écrit « Je vous aime à la folie et jamais, jamais, je ne peux être un moment sans vous adorer. »
Ah ouais.
Là, je me suis dit que j'ai pensé à nous, Antoine, et je me dis que quand nous, on dit qu'on s'aime à mille, ouais. à mille, mille comme Marc à mille, c'est un peu autre chose.
Est-ce qu'il y a des parties Peggy 18 dans le texte
ou... Je ne pense pas. Non, c'est pas, c'est reste, pas trop ça. Okay. Non, et
en fait, je pense que ça, déjà, c'était un peu du Peggy 18.
En ouais.
Et en fait, le truc, c'est que à lire comme ça, ça peut paraître très révélateur, mais il faut remettre aussi ça dans le contexte révolutionnaire et dans le contexte du langage utilisé à l'époque, même envers des amis. Le contexte révolutionnaire va aussi favoriser l'expression de sentiments, et c'est vrai qu'en plus, apparemment, les propos sont assez brouillons, puisque ça parle de révolution, ça parle de... Et en plein milieu, il y a des expressions d'affection.
Peut-être qu'elle a un petit peu perdu la tête.
C'était très drôle. Mais en même temps, d'un autre côté, le fait que Axel von Fersen ait fait le choix de conserver ses lettres au lieu de juste les jeter, il les a conservées et caviardées, après elles ont été caviardées, mais il a fait le choix de les conserver, finalement ça signifie qu'elles comptaient. Elles comptaient tellement qu'il n'a pas fait que les conserver, il a aussi recopié, puisque sur les 50 lettres, il y a une partie qui ont été écrites par Marie-Antoinette, et ce dont ils se sont rendus compte en analysant graphologiquement les documents et en analysant l'encre, c'est que il y en a aussi une partie qui ont été recopiées.
Motivé quand même.
en plus, il y en a une cinquantaine quoi.
Alors il aurait pu juste les photocopier.
Par von Fersen lui-même, ou en tout cas à sa demande. Et l'analyse des encres montre d'ailleurs que c'est parfois la même encre sur les lettres recopiées par von Fersen et les caviardages de lettres de Marie-Antoinette. Et que du coup, l'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit Axel von Fersen lui-même qui serait le censeur de ces lettres. Probablement pour protéger la reine, ou se protéger lui, ou les deux. Et du coup, ça explique aussi qu'il reste 7 lettres sur lesquelles on ne peut pas distinguer l'encre de l'auteur et celle du censeur.
Parce que c'est la même. C'est la
probablement même. Parce que c'est la même. Et que probablement, il l'a fait rapidement après.
Voilà. C'est un peu digne des experts. Hein.
Ça, c'est un peu digne des experts.
Il a peut-être écrit lui-même ses lettres.
Peut-être qu'en fait, il a tout inventé. Ce serait très drôle. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, sachez que le 21 octobre 2021 sortira aux éditions Lafond Marie-Antoinette et Axel Fersen, correspondance secrète, qui seront donc les lettres envoyées, échangées entre les deux et commentées par l'historienne Isabelle Aristide Astier. Maintenant, je m'en souviens. Où donc vous pourrez retrouver ces échanges épistolaires et ce potentiel scandale entre les deux. Après, moi, je ne suis pas du tout historienne, donc je ne connais pas le contexte, mais je me dis aussi que quand tu es dans la situation dans laquelle elle était, donc il faut savoir qu'elle a été décapitée en 1793, peut-être que tu as envie de dire à des gens « Ouais, viens, on est ensemble, viens, on s'aime. »«
On va en Suède.
»« Ouais, viens, on s'en va en Suède. » Tu vois, je ne sais pas, quelque chose, quoi. Donc je ne sais pas, mais bon, voilà. C'était un sujet que j'ai trouvé très intéressant.
Ça l'était.
Et je me demandais si on n'a pas juste envie de lire les lettres et qu'on voudrait faire des trucs avec la science, tu vois, sortir de chez soi pour aussi voir de la science. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Marion ?
Eh bien, ça tombe bien puisque cette semaine, c'est la fête de la science.
Eh bien, oui.
Et donc, effectivement, c'est la fête de la science jusqu'au 11 octobre. Donc, jusqu'à lundi, si je dis pas de bêtises. Et en plus, c'est les 30 ans de la fête de la science.
Ah ouais, tu vas avoir plein de trucs à nous dire. On est prêt pour les 40 prochaines minutes.
Non, du coup, j'ai fait petit. Mais du coup, je vous mettrai le site de la fête de la science et donc vous pourrez regarder s'il y a des choses qui sont à proximité, qui vous intéressent.
Il est bien fait d'habitude.
Ouais, il est plutôt bien fait, il y a pas mal de trucs. Notamment, j'ai vu qu'il y avait qui proposait des kits clés en main d'escape game. Il y en a 3. Donc si ça vous intéresse de créer un escape game un peu scientifique et tout ça, ils vous proposent des choses pas là-dessus. Donc, ce n'est qu'un exemple. Après, il y a plein d'animations, que ce soit sur le site, qui vous proposent des activités ou près de chez vous, probablement dans les musées, dans les laboratoires, vous aurez sûrement des animations.
Trouve un projet scientifique près de chez toi.
C'est ça, trouve un projet scientifique près de chez toi. Et donc moi, je vous en propose 2 qui sont du coup des expositions éphémères faites pour la fête de la science, qui sont disponibles jusqu'au 15 octobre au parc animalier Zoo Odyssée à Villiers-en-Bois, qui est en partenariat avec l'Espace Mendès France de Poitiers. Donc la première, c'est Biodiversité vitale et fragile, donc sur l'étude et la protection de la biodiversité. Et la deuxième, qui s'appelle Les Découvreuses Anonymes, qui donc met en lumière des femmes scientifiques qui ont eu un rôle majeur dans différentes disciplines, donc ça peut être la physique, la chimie, l'anthropologie, l'informatique.
En sciences.
Donc voilà, ces 2 expos ont commencé le 1er octobre, se terminent le 15, donc elles sont assez courtes, donc si ça vous intéresse, allez-y. Et expo un peu plus long, donc jusqu'au 2 janvier, à l'Espace des Sciences de Rennes, donc il y a l'exposition Feu, qui est sur le feu.
Donc il y a vraiment en suspense.
Ouais, qui est une exposition plutôt ludique qui se déroule en 3 parties. Donc la première qui est Apprivoiser le feu, donc qui est un peu plus historique et sur même aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait avec le feu. La deuxième qui est Comprendre le feu, qui cette fois-ci est plus sur la physique, la chimie et un peu l'écologie liée au feu, toute la technologie qu'on utilise aujourd'hui en lien avec le feu. Et la troisième partie sur Combattre le feu, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dangereux dans le feu. Ça. Voilà. Donc c'est à Rennes, un petit peu loin de nous.
C'est un peu loin. On trouvera des choses, je pense, sur Paris pour la fête de la science. Il y a peut-être moyen.
Oui, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs.
Ouais, Paris, généralement, il y a 2-3 trucs.
Petite ville, mais plutôt animée. Et donc voilà.
Ok. Eh bien, merci aussi pour ces sorties. Je voudrais aussi rappeler que, comme d'habitude, parce que je ne le rappelle plus, mais il faut que je le fasse, les sources de tout ce dont on vous a parlé sont disponibles sur notre site, donc impact-factor1000.fr. Ça doit être ça.
Ça doit pas être trop loin.
Ouais,
voilà, tu vous tapez impact-factor1000 sur Google.
Bien, et très bien référence.
Voilà. Non, mais c'est vrai en plus.
Ouais.
Donc là, vous trouverez toutes les sources. Si vous voulez suivre un peu plus notre actualité, on a un compte Twitter qui s'appelle impf1000, I-M-P-F et le chiffre 1000. Et si vous n'êtes pas satisfait de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, normalement vous pouvez nous retrouver sur à peu près toutes les plateformes, notamment sur notre site où il n'y a pas besoin d'obligation d'inscription ni de pub. Et on peut même écouter en ayant son portable fermé. Ça,
on
c'est
peut
cool.
tout faire.
On peut faire beaucoup de choses.
Magnifique.
Et sinon, d'ailleurs, s'il y a des plateformes sur lesquelles vous ne nous trouvez pas, eh bien dites-le nous. Ça nous intéresse toujours. Voilà. C'était le 22e épisode d'Impact Factor 1000. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines. Bonsoir et bienvenue dans ce 23e épisode d'Impact Factor 1000.
C'est le 22e.
Et ben je vais la refaire tout de suite, c'est pas grave. Je me suis dit en plus. Bonsoir et bienvenue dans ce 22e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui...
En même temps, c'est ta faute là.
Mais non, c'est toi qui t'es. Bah là, c'est fini. Je pense qu'on peut remballer. On peut tous rentrer chez nous parce que là, c'est fini. Enfin, nous, on est déjà chez nous, mais.
Écoutez, rentrez chez vous.
Ah là là, ça y est, je pleure. C'est fini. C'est fini. Bonsoir et bienvenue dans ce 23e. Putain!
Bah c'est con.
Et en plus je repleure et tout, tu vois, donc à chaque fois c'est trop chiant.
Mais un peu on de concentration, merde, c'est le 22e.
C'est le 22e.
Nous sommes le 4.
On est le 4
octobre.
Non, donne-moi le stylo parce que sinon je vais encore dire 23.
Mais je te l'ai rendu, il est là.
Et bah il est là. Mais non, j'ai écrit 23.